VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui du vendredi 25 octobre 2019. Et Kabadou avec vous. Voici les titres. Au Botswana, le président sortant Mokwetsi Masisi a été proclamé vainqueur des élections générales. Et ce, malgré la fronde inédite de son prédécesseur. À Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, une frange de la population manifeste sa colère contre la grève des médecins. Le Nigeria promet lever les interdictions d'activité pesant sur deux ONG internationales. Ici aux États-Unis, des zones de l'État de Californie sont de nouveau théâtre d'incendies. Des dizaines de milliers de personnes vont être évacuées. Et puis ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce matin dans les rues de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Les manifestants veulent que le gouvernement et le syndicat des médecins ouvrent des négociations immédiates pour mettre fin à la grève qui paralyse le système sanitaire depuis plusieurs mois. On fait le point avec Alidou Ouadérougou, notre correspondant à Bobo-Dioulasso.
Elles étaient plusieurs dizaines de milliers de personnes vendredi à répondre à l'appel des organisations de la société civile contre la grève des médecins en vigueur depuis près de 5 mois maintenant. Une manifestation baptisée la marche de la survie. Non au génocide des médecins, syndicats terroristes sont autant de slogans scandés par les manifestants de la place Tefoua Moro au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins pour la remise de leur déclaration. Mais la marche ne s'est pas déroulée comme prévu. Tout a dégénéré quand des manifestants ont tenté d'assiéger la bourse du travail et certaines cliniques environnantes. Ils ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de police. Le calme est revenu peu avant 12 heures, mais le marché central et les magasins étaient fermés. Alidou Ouédraogo pour VOA Afrique.
Les casques bleus de la mission de l'ONU République démocratique du Congo n'ont pas de mandat pour soutenir les armées voisines qui se préparent à neutraliser les groupes armés actifs dans cette zone, a indiqué sa dirigeante Leila Zerungi. Les chefs des armées de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et de l'Ouganda se concertent depuis jeudi à Ngoma pour mutualiser leurs efforts afin de neutraliser des dizaines de groupes armés nationaux et étrangers présents dans l'Est congolais. 5 membres d'un groupe armé Songhai, signataires de l'accord de paix de 2015 au Mali, Ganda, ils ont été tués mercredi dans le nord du pays par des djihadistes présumés. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de ce mouvement, Abdourahmane Diallo. Au Niger, les autorités ont décidé d'interdire tout déplacement sans escorte militaire aux ONG internationales dans plusieurs zones de Tillaberi et Taoua, deux régions instables frontalières du Mali et théâtre de nombreuses attaques de groupes djihadistes. Le Nigeria va lever d'ici quelques jours les interdictions d'activité pesant sur deux ONG internationales dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a indiqué un responsable des Nations Unies, Abdourahmane Dia.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, a affirmé avoir reçu l'assurance d'Abuja que la suspension des activités de Mercy Corp et d'Action contre la faim sera levée dans quelques jours. Cela devrait permettre la reprise immédiate d'une assistance vitale à près de 400 000 personnes qui sont privées de nourriture et d'autres aides essentielles depuis un mois, a-t-il déclaré dans un communiqué après une rencontre avec des hauts militaires nigérians. Les bureaux d'action contre la faim de Mercy Corps dans le nord-est avaient été fermés en septembre, alors que des millions de personnes ont toujours besoin d'une assistance humanitaire. L'armée a notamment accusé l'ONG française ACF d'aider et d'encourager les terroristes en leur fournissant nourriture et médicaments. L'armée nigériane a souvent accusé les ONG de faire des distributions alimentaires ou de médicaments qui tombent ensuite dans les mains des combattants.
Toujours au Nigeria, 108 personnes détenues dans une école islamique de l'État de Kwara ont été libérées dans le cadre d'une vague de raids contre ces établissements, c'est ce qu'indique la police. Le président sortant du Botswana, Mokwetsi Masisi, a été proclamé vainqueur des élections générales, malgré la fronde inédite de son prédécesseur. Les résultats ont aussitôt été contestés par l'opposition. Précision avec Nathalie Barge.
Au terme de 2 jours de dépouillement, Mokwetsi Masisi a été déclaré élu pour un mandat de 5 ans dès la confirmation que le Parti démocratique du Botswana a obtenu la majorité absolue des 57 sièges du Parlement. Douma Boko, chef du principal parti d'opposition UDC, a d'emblée rejeté ces résultats, arguant de fraude massive. La mission d'observation de la SADC affirme que les élections ont été bien organisées et conduites dans un climat pacifique et libre qui a permis aux électeurs de se prononcer de façon transparente. À la tête du pays depuis son indépendance en 1966, le parti du président sortant était pour la première fois menacé de perdre sa majorité au Parlement lors de ce scrutin.
Plusieurs milliers de Zimbabwéens ont défilé ce vendredi dans la capitale Harare à l'appel de leur gouvernement pour dénoncer les sanctions imposées par les Occidentaux à leur pays en proie à une crise économique catastrophique. En Éthiopie, 16 personnes au moins ont été tuées lors de manifestations cette semaine contre le Premier ministre et prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, c'est ce qu'annonce un chercheur d'Amnesty International. 6 Marocains suspectés de préparer des actes terroristes d'envergure au nom du groupe État islamique ont été interpellés ce vendredi dans les environs de Casablanca, selon un porte-parole de la police à Rabat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, les incendies dans le nord et le sud de la Californie ont entraîné l'évacuation d'au moins 50 000 personnes. L'électricité a été coupée à des milliers de consommateurs dans le but de contenir la propagation des incendies. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
D'après les autorités, l'incendie dans la région viticole du nord de la Californie est contenu à 5%. Mike Pax est le chef des sapeurs-pompiers.
À l'heure actuelle, l'incendie a ravagé 6475 hectares. Nous avons 5% de confinement. Nous avons 49 structures détruites. Nous avons plus de 1300 pompiers en service. Ce nombre devait encore augmenter de 50% dès demain.
En plus de contenir l'incendie, le shérif Mark Essick du comté de Sonoma a déclaré que certaines personnes refusent de partir malgré le danger.
Nous voulons vraiment que les gens tiennent compte de nos avertissements et évacuent ces zones. Donc, comme nous avons indiqué, s'il y a un changement de vent, s'il y a une urgence soudaine, nous ne voulons pas avoir à évacuer les gens à la dernière minute. Lorsqu'un incendie approche, nous voulons une zone dégagée.
L'incendie a débuté mercredi près des Geysers, le plus grand champ géothermique du monde, qui abrite près d'une vingtaine de centrales électriques.
Les 27 pays de l'Union européenne ont repoussé une décision sur la durée du report de la date du Brexit à la semaine prochaine, peu avant le 31 octobre, donnant plus de marge à Boris Johnson pour obtenir des élections anticipées. De son côté, le Premier ministre a appelé le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, à être un homme et soutenir son appel à des élections anticipées le 12 décembre pour sortir de l'impasse du Brexit. Hier, Boris Johnson a appelé à la tenue d'un tel scrutin après que les députés ont voté mardi le principe de l'accord de retrait qu'il a conclu avec Bruxelles, mais ont refusé de l'examiner en accéléré, comme le souhaitait le Premier ministre, afin que le Brexit puisse avoir lieu le 31 octobre, comme prévu. Toujours au Royaume-Uni, la police a annoncé avoir procédé à 2 nouvelles arrestations à la suite de la découverte macabre près de Londres de 39 Chinois morts dans un camion dont le chauffeur avait déjà été placé en garde à vue. Le régime syrien et son allié russe ont accéléré ce vendredi le déploiement de leurs troupes à la frontière syro-turque au moment où les Américains ont annoncé l'envoi de renforts militaires dans une zone pétrolière plus à l'est sous contrôle kurde. La Turquie a exhorté les États-Unis à s'abstenir de tout dialogue avec les chefs de forces kurdes en Syrie, le général Mazloum Abdi estimant que cela reviendrait à légitimer les terroristes. Proche-Orient, des heurts ont éclaté dans le centre de Beyrouth entre des partisans du mouvement chiite du Hezbollah et des manifestants au 9e jour d'une mobilisation inédite contre la classe politique qui paralyse le Liban. Au lendemain d'une adresse à la nation du président Michel Aoun, jugée unanimement décevante, des dizaines de nouvelles barricades ont fait leur apparition sur les routes, renforçant la paralysie du pays. Au Yémen, le gouvernement et les séparatistes ont conclu un accord parrainé par l'Arabie Saoudite pour partager le pouvoir dans le sud et mettre fin à leur conflit dans un pays dévasté par une guerre aux fronts multiples. C'est ce qu'ont annoncé des responsables. Facebook, le plus grand réseau social du monde, a annoncé le lancement lancement ce vendredi d'un fil d'actualité nommé News. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nanit Talani.
Le fonds d'investissement français Meridiam a signé deux contrats avec l'État gabonais pour la construction d'une centrale hydroélectrique à 100 km de Libreville et d'une route traversant le Gabon. Le projet de la centrale représente 150 millions d'euros et sera contrôlé à 60% par Meridiam. La route pourrait coûter plus de 100 millions d'euros et devrait permettre de créer près de 3 000 emplois. Les deux projets seront développés et opérés par le Fonds français et le Fonds gabonais d'investissement stratégique. La société russe des chemins de fer RJD a signé un protocole d'accord avec la République démocratique du Congo pour la réhabilitation et l'extension de son réseau ferroviaire vétuste. Le projet, d'un montant de 500 millions de dollars, porte principalement sur la modernisation et la construction du chemin de fer en RDC, ainsi que sur le développement de la logistique ferroviaire. La RDC ne compte que très peu de routes praticables et son réseau de chemin de fer long de 5000 km, construit à l'époque coloniale, est défectueux et cause de nombreux déraillements meurtriers. Pour terminer, l'Afrique du Sud suspend les activités sur son territoire de la compagnie nationale aérienne zimbabwéenne qui n'a pas payé ses taxes aéroportuaires. Cette interdiction restera en vigueur jusqu'à ce que les montants dus soient réglés. Air Zimbabwe proposait un vol hebdomadaire vers Johannesburg, sa seule destination internationale. La compagnie a licencié des centaines d'employés ces deux dernières années à cause des difficultés financières.
C'est l'heure de la page sportive qui vous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
César Do Amaral Bruno est le premier maillon jaune du Tour du Faso 2019.
Oui, la première étape du Tour cycliste international du Faso a consacré l'Angolais. César Do Amaral Bruno a enlevé le contre-la-montre sur 7 km à Ouagadougou, endossant le premier maillot jaune de cette 32e édition. Le point avec notre correspondant dans la capitale burkinabé, Kader Traoré.
Cette année, 90 coureurs venus d'Europe, d'Afrique prennent part à cette compétition. La compétition a démarré ce matin avec la première étape sous la forme d'une course contre la montre par équipe de 7 km. Elle a été remportée par l'équipe Baye Sakal de l'Angola en 8 minutes 05 secondes. Elle est suivie du Rwanda et de la Belgique. Le Burkina Faso arrive en 8e place avec l'équipe nationale. Les étalons cyclistes ne sont pas pour autant inquiets pour la suite de la compétition. Ils veulent bien conserver le maillot jaune conquis l'année dernière par Mathias Sorgho. Le Tour du Faso 2019 est encadré par l'UCI, Union Cycliste Internationale. Son représentant en Afrique de l'Ouest est le français Laurent Bezo, qui est en même temps le directeur de la course. L'innovation de cette 32e édition est le détour du côté du Togo dans la ville de Dapaon. Les coureurs vont parcourir au total 1212 km en 10 étapes. Kader Traoré sur la route du Tour pour VOA Afrique.
Kurt Edwin est le nouveau président de la Fédération ghanéenne de football.
Kurt Edwin Siméon Okraku a recueilli 59 voix contre 43 pour son poursuivant immédiat George Afiyi. Ce vote met un terme au mandat du comité de normalisation qui avait pris les rênes de la fédération après la démission l'année dernière de Kwesi Nyantakyi, emporté par un scandale de corruption. Toujours au Ghana, le championnat passe désormais à 18 clubs. Cette décision prise par la fédération fait suite aux actions intentées par deux clubs en justice contre elle. Ainsi, Great Olympics et King Faisal intègrent le championnat de première division, la Première Ligue. Mais cette augmentation ne vaut que pour cette saison 2019-2020. Le championnat reprendra sa forme habituelle avec 16 clubs au début de la saison 2020-2021. Le congrès a annulé la saison 2017-2018 qui n'a pas pu aller à son terme après la publication du document du journaliste Anas Arimayai Anas.
Fawzi Benzarti, nommé sélectionneur de la Libye.
La Fédération libyenne de football a engagé l'entraîneur tunisien pour un contrat de 6 mois renouvelable. Fawzi Benzarti va diriger son premier match officiel sur le banc de la sélection libyenne face à la Tunisie en novembre prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021. Le technicien tunisien a déjà conduit cette sélection entre 2007 et 2009. Cette saison, Fawzi Benzarti a décidé de mettre fin à son aventure à la tête de l'étoile sportive du Sahel.
Merci Yacouba.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, place à présent à nos dossiers du jour en République démocratique du Congo. L'ancien porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, ne voit aucun mal à ce que le président Joseph Kabila se représente à la présidentielle de 2023. C'est ce qu'il a annoncé au terme de 3 jours de réflexion à Lubumbashi avec le PPRD, parti de la même famille politique. Eddy Issengo a interviewé Lambert Mende dans nos studios à Washington.
Ça m'a laissé un goût amer dans la bouche avec l'immoralité qui a prévalu dans cette élection où nous avons vu des députés provinciaux, grands électeurs de notre famille politique, préférer l'argent à la discipline de notre famille politique. Et j'ai laissé la famille politique elle-même, le FCC, le chef de cette famille politique, le président Joseph Kabila, s'occuper de cela. Et je ne suis pas au chômage parce que je suis député national, d'ailleurs l'un des mieux élus de la République, parmi les 5 mieux élus. Donc ça suffit à mon bonheur. Je n'ai pas l'impression qu'il m'ont délaissé durant cette épreuve. J'étais en contact pendant toute cette situation avec le président honoraire Joseph Kabila, qui ne m'a ménagé aucun appui, et donc je ne pense pas que je puisse le considérer comme responsable de l'immoralité de quelques députés provinciaux. Ça, ce serait de ma part ne pas le connaître et ne pas lui faire confiance.
L'épreuve des élections dans les 5 Kourous s'est accompagnée de beaucoup d'épisodes, entre autres celui du diamant Dingo Kara qui a disparu. Qu'en est-il alors aujourd'hui?
Ça n'a rien à voir avec l'épisode des élections. Ce sont mes électeurs qui sont venus à Kinshasa pour vendre un diamant. Vous savez que le secteur du diamant a été libéralisé en République démocratique du Congo. Et donc, lorsque ces compatriotes sont arrivés, je les ai aidés pour trouver leur chemin dans les dédales administratives pour vendre leurs pièces, mais en respectant les règles de traçabilité des matières minéralogiques précieuses. Et des militaires et des policiers se sont mis en tête de vouloir leur arracher leurs biens. Je me suis trouvé impliqué là-dedans, pas pour longtemps, parce que finalement les autorités militaires et de la justice ont mis la main sur cette bande de malfrats qui croupit maintenant à la prison militaire de Ndolo en attente de leur jugement. Et j'espère qu'ils recevront une punition méritée. C'est un quartz que le centre d'évaluation des substances minéralogiques a identifié comme un quartz. Ça brille, mais ce n'est pas du diamant.
Vous êtes indigné des irrégularités durant les élections. Certains, vous l'avez dit à demi-mot, parlent des corruptions.
Nous pensons qu'il faut absolument faire en sorte que, en ce qui me concerne, les élections indirectes soient revisitées parce qu'il y a trop de place pour l'immoralité dans ces élections.
Vous êtes dans la même famille politique que le PPRD qui est en train d'organiser ses universités à Lubumbashi. Ils ont déjà déclaré que bientôt l'ancien président Joseph Kabila ferait sa rentrée politique et que leur objectif c'est de regagner le fauteuil de la présidentielle. Qu'est-ce que vous en dites?
Je ne connais aucune disposition de cette constitution qui lui interdit de postuler par le fait d'être sénateur à vie. Je suis un des rédacteurs de cette constitution et ce n'est pas le point de vue qui est le mien.
Le député Lambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement de la RDC.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Congo-Brazzaville, la rapporteuse spéciale des Nations Unies en mission dans le pays a déploré l'existence de la discrimination contre les populations autochtones dites pygmées. Ces derniers n'ont pas accès aux services sociaux de base comme la santé et l'éducation. Aussi, ils n'ont pas le droit à la terre pour cultiver. Victoria Daoli Corpus a demandé aux autorités congolaises de réparer cette injustice. À Brazzaville, la correspondance d'Arsène Séverin.
Ganette Nagache est érythréenne. Elle a 37 ans. Elle dit avoir payé 5 500 $, environ 3 millions de francs CFA, à un passeur qui lui promettait l'Eldorado en Europe. Mais une fois sur un bateau en Méditerranée, son voyage a pris une tournure effroyable. Le rêve s'est vite transformé en cauchemar.
Notre bateau a chaviré et les gardes-côtes libyennes nous ont secourus. Ils nous ont dit que nous étions dans l'enceinte du ACR.
Vous allez pouvoir écouter à présent le reportage qui a été fait donc par notre correspondant Arsène Séverin.
Malgré les explications des autorités, Daoli Corpus a mis en relief la discrimination dont sont victimes les peuples autochtones et ce dans tous les domaines. L'agriculture, la chasse, l'éducation, la santé, voire la participation à la vie publique. La rapporteuse spéciale des Nations Unies.
And so I beg to disagree with the views presented that there is no discrimination in Congo. In my discussions with many ministers,
je ne suis pas d'accord pour dire que la discrimination et l'exclusion des peuples autochtones n'existent pas en République du Congo. Ils disent que les Bantous souffrent également d'un manque d'accès aux services sociaux de base. 8 ans après l'adoption de la loi 5/2011, l'analphabétisme reste largement répandu dans les communautés autochtones, y compris dans la Sangha, comme j'en ai été témoin direct.
Le gouvernement a adopté en juillet dernier 6 décrets d'application de la loi sur les peuples autochtones. Mais cette loi elle-même n'est pas connue par les communautés. Daelu Corpus.
So I think there's a really a very low awareness about the existence of the law. And
j'ai constaté que la majorité des autochtones ne connaissent pas cette loi. J'en appelle donc au gouvernement de renforcer les capacités de ces peuples afin qu'ils comprennent cette loi, qu'elle soit traduite en différentes langues sur des supports audio ou vidéo.
Durant son séjour au Congo, la rapporteuse spéciale des Nations Unies a échangé avec les communautés de autochtones, tant à Brazzaville que dans les départements de la Sangha et de la Likwala. Jean Ganga, le coordonnateur du réseau national des peuples autochtones du Congo, confirme ce constat.
Donc pour aller planter, il faut qu'on lui donne cet outil. Et celui qui donne cet outil, c'est le Bantou. Et quand elle plante, ce n'est plus son produit, c'est le produit de Bantou. Et n'a pas droit à toucher à ça. Et la chasse, quand on a compté 4 cartouches, tu dois ramener 4 gibiers. S'il n'y a pas 4 gibiers, tu as ton compte. On a voté la loi, bien sûr, mais la pratique, elle est où?
Pour accompagner les autochtones dans les écoles, le programme alimentaire mondial a mis en place les cantines scolaires et ses enfants sont prioritaires, explique Jean-Martin Bauer, le représentant du PAM au Congo.
Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais la cantine permet quand même de répondre à la problématique de la pauvreté. Donc en ce moment, nous appuyons une 60aine d'écoles Aura dans la Likwala et dans la Sangha. Nous avons dans ces deux régions-là environ entre 7 et 8 000 élèves qui sont bénéficiaires de la cantine scolaire. Donc c'est un public cible de choix parce qu'il répond justement à la problématique de la pauvreté et de l'exclusion.
Le Congo est l'un des premiers pays africains à avoir adopté une loi sur les peuples autochtones, mais son application traîne à porter les fruits. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Les migrants africains évacués de l'enfer libyen vers le Rwanda veulent toujours aller en Europe malgré tous les dangers qu'ils ont traversés et les abus qu'ils ont subis. 189 migrants érythréens, somaliens, éthiopiens et soudanais ont été amenés au Rwanda après un accord avec l'Union africaine. Le Rwanda a accepté d'accueillir un premier lot de quelques 500 migrants sortis des centres de détention libyens. Rude Elmandort s'est rendu au camp de transit de Gachoura au Rwanda. Son reportage est rendu par Irénée Hermanongo.
Ganette Nagache est érythréenne. Elle a 37 ans. Elle dit avoir payé 6 500 $, environ 3 millions de francs CFA, à un passeur qui lui promettait l'Eldorado en Europe. Mais une fois sur un bateau en Méditerranée, son voyage a pris une tournure effroyable. Le rêve s'est vite transformé en cauchemar.
Notre bateau a chaviré et les gardes-côtes libyennes nous ont secourus. Ils nous ont dit que nous étions dans l'enceinte du ACR, mais c'était un centre de détention libyen. Je ne peux même pas raconter ce qui nous est arrivé à nous, les femmes, mais c'était sinistre.
Hors caméra, beaucoup de ces femmes disent que les gardes libyens les ont sauvagement battues et violées. Évacuées vers un camp de transit au Rwanda, elles reçoivent maintenant de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés un logement, de la nourriture et de l'aide pour faire face à leur traumatisme. Elisa Vilchalan du HCR au Rwanda.
Un processus de guérison ne se produit pas du jour au lendemain. C'est pourquoi nous avons des psychologues spécialisés et des agents de protection pour travailler avec eux et les accompagner.
Nagash et d'autres migrants expriment leur gratitude au Rwanda qui leur offre tout au moins un abri en toute sécurité. Abdoul Abbas est un migrant somalien.
Parce que je suis debout ici, l'endroit est sûr, j'ai la santé et j'ai tout. Je suis très heureux.
Le Rwanda accueille temporairement quelques 500 personnes évacuées de Libye. À peu près 5000 autres migrants africains sont toujours détenus en Libye dans des centres de détention surpeuplés où ils sont victimes d'abus selon le HCR. Pourtant, malgré le risque, beaucoup comme Ganet Nagash veulent encore tenter le voyage périlleux pour regagner l'Europe.
L'Europe, c'est l'endroit où les autres réfugiés et moi voulons aller. Nous ne voulons pas rester ici.
En attendant de concrétiser ce rêve, ces hommes et ces femmes sont d'abord ici en sécurité. Ils ont tout le temps d'envisager ce qu'il faudra faire pour un avenir meilleur.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La Côte d'Ivoire a adopté en 2018 une loi visant à mieux réglementer le secteur des jeux de hasard. Cependant, l'ouverture d'espaces de jeux clandestins connaît une forte augmentation, exposant ainsi les joueurs de plus en plus jeunes. Récit Gabi Dorsil.
En Côte d'Ivoire, le secteur des jeux de hasard et des paris est régi par la Loterie Nationale. Et avec des bilans excédentaires, la LONACI se porte bien, car ils sont de plus en plus nombreux à parier méthodiquement sur les courses de chevaux et des matchs de football, ou à jouer frénétiquement au bandit manchot, au poker ou au loto. La demande est de plus en plus forte, l'offre suit en conséquence, à moins que ce ne soit l'inverse. Une alternative illégale est proposée aux Ivoiriens et séduit notamment la jeunesse, de plus en plus nombreuse à prendre plaisir à jouer au loto ou à ce que l'on appelle dans l'argot casino, c'est-à-dire les machines à sous. Fabrice, 24 ans, est un adepte des jeux clandestins.
Depuis l'âge de 15 à 16 ans, je joue au jeu hasard. Chacun sa pensée. Hein. Voilà. Plein d'autres pensent que le jeu hasard c'est nuisible pour la jeunesse. Voilà, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Pourquoi ils jouent? Voilà. D'autres viennent pour de l'argent. Voilà, certains aussi viennent pour passer le temps. Le problème principal, c'est pour de l'argent.
85% des Ivoiriens âgés de 10 à 14 ans joueraient au moins occasionnellement. Un quart des enfants et adolescents de 10 à 18 ans joueraient même quotidiennement ou presque. Une addiction qui n'est pas faite pour déplaire aux tenanciers de ces établissements clandestins qui gagnent une manne journalière importante sans se soucier de l'âge de leurs clients. Écoutons Jean-Philippe Stéphane, gérant d'un casino clandestin.
Ici, dans ce mouvement, il y a longtemps. On fait au moins 6 ans à 7 ans. Souvent, quand on gagne plus, souvent on gagne moins. Souvent, on gagne 20 000, 30 000. Il n'y a pas client fixe. Il y a les mineurs, il y a les majors, il y a les adultes. Tous ceux qui viennent se distraire.
Pour combattre l'accès aux jeux d'argent aux moins de 21 ans, la police, via le département de la brigade mondaine en charge des mineurs, travaille en étroite collaboration avec la LONACI. Des descentes d'unités de police sont effectuées. Un travail de sensibilisation est également fait auprès des gérants de casinos opaques pour qu'ils ne laissent plus les mineurs entrer dans leurs locaux.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Ali Abdoul, accompagné de Michel Joseph. À la console, Ziao Chong-Yong. C'était Ekabadou à Washington. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui.
diffusée partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA